Vous êtes sur RTL.
Il est 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Yann Boucherie pour le Tout Info de RTL. Bonjour Yann.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 13 octobre.
Et à la une, les combats qui s'intensifient au nord-est de la Syrie entre l'armée turque et les forces kurdes. Les tirs se concentrent sur la ville de Ras al Ain, frontalière de la Turquie. 38 civils et 81 combattants kurdes ont été tués depuis l'offensive turque mercredi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En France, plusieurs manifestations se sont déroulées hier pour condamner l'assaut lancé par les troupes du président Erdogan. 1500 personnes ont défilé à Strasbourg et 3000 à Marseille sur le Vieux-Port. Mehmet, militant kurde au micro RTL d'Hugo Hamelin.
Oui, cette sensation, on l'a en fait. Cette sensation de trahison. On nous a laissé à l'abandon. Le peuple kurde a combattu Daesh. Une fois rentré à Raqqa, on a près de 12 000 djihadistes détenus chez nous. Si on les relâche, les combattants de Daesh ne resteront plus au Rojava. Ils n'ont plus de pouvoir là-bas. Donc ce qu'ils vont faire, c'est attaquer l'Europe. Nous devons passer à l'acte. C'est l'appel qu'on fait, c'est que les frappes aériennes, il faut arrêter. Il y a des civils à côté.
Mehmet, militant kurde au micro RTL d'Hugo Hamelin hier à Marseille. La France a condamné officiellement cette offensive et décidé de suspendre hier ses exportations d'armes vers la Turquie, annonce commune des ministres des Affaires étrangères et de la Défense dans un communiqué. L'Allemagne a pris la même décision.
Et puis Yann, au Japon, le typhon Agibis poursuit son parcours meurtrier.
Maison submergée, glissement de terrain, cours d'eau déchaîné. La tempête a entraîné la mort de 11 personnes et on déplore au moins une douzaine de disparus. Elle a semé la désolation en traversant le centre et l'est du pays, cette nuit notamment. Frédéric est boulanger-pâtissier à Tokyo et il a eu une belle frayeur.
Ça fait 20 ans que je suis à Tokyo et c'est la première fois que je vois un typhon d'une telle intensité. Quand on a les vitres de la maison qui tremblent et qu'on entend les sifflements du vent dans les ouvertures, ça fait peur. Il y a des quartiers de Tokyo où il y a des inondations. Et puis il y a la préfecture de Chiba où il y a l'aéroport de Narita. Là, eux, ils ont morflé pas mal parce que c'est une péninsule exposée sur la mer, les vents. En plus, on a eu un tremblement de terre hier pour couronner le tout. Hier soir, à 18h30, en plein typhon, d'un coup, on entend les alarmes des téléphones qui se mettent en branle. Un tremblement de terre. Ah ouais, ça fait peur.
Frédéric, boulanger-pâtissier à Tokyo, joint pour RTL par Philippe Dova. Le typhon a entraîné l'annulation du match Namibie-Canada de la Coupe du Monde de rugby. En revanche, Japon-Écosse, prévu à 12h45, a été maintenu, tout comme États-Unis-Tonga à partir de 7h45.
En France, l'énigme Xavier Dupont de Ligonnès va encore garder tout son mystère.
Oui, l'individu interpellé à Glasgow n'était pas le fugitif recherché par toutes les polices depuis 2011. Il a d'ailleurs été relâché hier par la police écossaise. À Nantes, où le drame a eu lieu il y a 8 ans, les habitants faisaient part de leur déception et de leur étonnement.
Moi, je croyais que les Écossais étaient plus doués que ça. On est mieux chez nous en France quand même. Je pense qu'ils n'auraient pas fait une alerte pour rien. Voilà. Moi, je plains l'homme qui a été arrêté pour rien.
C'était un peu trop gros, franchement. On va en retrouver 8 ans après. Il aurait réussi à se cacher pendant 8 ans. Et puis tout d'un coup, il est à l'aéroport de Glasgow, tranquille.
Vous y avez pas cru ?
Non, pas du tout. Et en plus, quand on dit qu'il ressemblait absolument pas, qu'il était méconnaissable, c'est tellement énorme que... Voilà, non. On n'y a pas cru.
Peut-être qu'il s'est refait le visage ou on ne sait pas. Hein. Bah moi j'aurais pensé que ça aurait été la bonne. Qu'il aurait été attrapé puis qu'il aurait fini ses jours à vie en prison.
À propos recueilli à Nantes par Nicolas Bobby pour RTL, la colère des Rouennais plus de 15 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. 1500 personnes ont défilé dans les rues de la ville de Seine-Maritime pour réclamer la vérité sur les conséquences notamment sanitaires du sinistre. On connaîtra ce soir le nouveau président des Républicains. Ils sont trois candidats pour le poste. Le favori Christian Jacob, actuel président du groupe LR à l'Assemblée. Également Guillaume Larrivé et Julien Aubert. Lui a quitté les Républicains. Xavier Bertrand interpelle Emmanuel Macron ce matin dans le journal du dimanche. Le président de la région Hauts-de-France appelle le chef de l'État à changer face à l'islam politique en mettant, je cite, en garde contre des risques d'affrontement. Et puis toujours dans le JDD, Bruno Le Maire annonce la privatisation de la Française des Jeux pour le 7 novembre prochain. Les Français et les investisseurs pourront souscrire des actions jusqu'au 20 novembre. L'État, qui contrôle actuellement 72% de l'entreprise, restera actionnaire minoritaire à hauteur de 20% au minimum.
Précision concernant l'élection du nouveau président des Républicains, peut y avoir un second tour dimanche prochain.
Bien sûr.
Si c'est serré ce soir. Yann, les sports avec pour commencer un bel hommage hier sur RTL.
Oui, hommage à notre ami Eugène Saccomanno, disparu en début de semaine. Hommage dans On refait le match spécial qui lui était consacré et dans lequel Bernard Tapie a tenu à intervenir.
Il incarnait ce qu'on peut espérer des gens qui commentent et qui nous parlent du sport. Il était d'un enthousiasme à la fois communicatif et sincère. C'est-à-dire que quand ça lui plaisait, il était capable de faire des envolées lyriques incroyables, et quand ça lui déplaisait, il était capable aussi de dire des trucs. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Parce que il parlait pas pour dire des choses comme ça. Il avait beaucoup de compétences sur la manière de voir et d'analyser le football. Et je suis très très malheureux de sa disparition.
À Bernard Tapie hier dans On refait le match spécial Eugène Saccomanno présenté par Christian Olivier. En football, l'Italie s'est qualifiée pour l'Euro 2020 en dominant la Grèce hier 2-0. Demain, la France accueille la Turquie en présence probable de 40 000 supporters turcs, ce qui inquiète les autorités au vu du contexte international bien sûr. L'UEFA va par ailleurs lancer une enquête après la victoire de la Turquie 1-0 contre Andorre. Vendredi, les joueurs turcs auraient célébré leur but en effectuant un salut militaire. Le rugby est le top 14, victoire de Toulouse sur Castres hier, 36-15, avec Thomas Ramos qui a pourtant quitté le 15 de France sur blessure. Les autres résultats, victoire de Bayonne sur Montpellier 28-24, de La Rochelle sur Brive 41-17 et de Lyon sur Pau 27-8. 27 partout entre le Racing et Agen. Lyon reste largement en tête. À suivre aujourd'hui, la Lanterne Rouge, le Stade Français qui reçoit Toulon à 16h50 et puis Bordeaux-Bègles, Clermont à 21h. Au Mondiaux de gymnastique à Stuttgart, Samir Haït Saïd a arraché son billet pour les JO 2020. Il s'est offert sa première médaille mondiale, c'est du bronze aux anneaux. Enfin, en athlétisme, le Kenyan Kipchoge a été le premier homme à descendre sous les 2 heures au marathon. C'était hier à Vienne, 1h59 et 40 secondes, très exactement, mais le record ne sera pas homologué car il a été établi dans des conditions particulières avec des lièvres, comme on les appelle, pour lui ouvrir la route et maintenir le rythme tout au long du parcours.
Et la Formule 1, c'est au Japon, vous le savez, déjà 14 tours de parcourus par les pilotes. C'est Vettel qui est devant Bottas, devant Hamilton, et pour l'instant le français Pierre Gasly est en 6e position. À tout à l'heure, toute info de RTL, Yann Boucherie et RTL.fr pour tout savoir. On va bouquiner dans un instant. Vous aimez lire, Virginie ?
Bien sûr, surtout Jean-Christophe Ruffin.
Ah oui.
Transition toute faite. Hein.
Bernard Lehuis dans un instant.